Le millénium, c'est ce règne de 1000 ans dont certaines églises disent qu'il arrivera après le retour du Christ. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chrétiens, en effet, attendent le retour de Jésus-Christ sur terre. Et ils pensent que ce retour sera suivi d'un règne de 1000 ans avec les justes avant que n'intervienne le jugement dernier. Alors le retour du Christ, c'est effectivement un thème que l'on trouve dans un certain nombre de prédications chrétiennes, jusque dans un bon nombre d'ailleurs de cantiques chrétiens, surtout de la tendance évangélique. Et il y a un bon nombre de chants comme cela qui disent « Jésus reviendra marcher sur nos chemins ». Et on s'en est même moqué d'ailleurs, jusque dans certains films où on voit un curé moderne et dynamique chanter avec une guitare « Jésus revient parmi les siens ». Eh bien, ce n'est pas simplement une blague, c'est vrai qu'un bon nombre de chrétiens professent cela. Alors, il y a bien sûr une origine évangélique à cela, en particulier au moment de l'ascension, quand Jésus est enlevé au ciel et que les anges disent « Ne vous faites pas de soucis, il part, mais il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel ». Et à partir de ce moment-là, les croyants attendaient le retour du Christ comme une sorte de fin du monde, en quelque sorte, où Jésus reviendrait dans son règne glorieux. Et ce retour du Christ est appelé en théologie la parousie. Cela me pose quelques problèmes, pour tout vous dire, parce que je crois que attendre le retour du Christ ne me semble pas une bonne attitude. En effet, je pense d'abord que c'est démobilisant. Si effectivement la prédication chrétienne doit être de dire « Préparez-vous, frères et sœurs, parce que Jésus va revenir et va rétablir toutes choses », alors, eh bien, ce n'est pas la peine qu'on se batte pour essayer de faire un petit peu de paix et de justice dans ce monde. Ce n'est pas la peine que l'on essaye de faire en sorte que l'on puisse guérir les maladies difficiles qui rendent tant de gens malades ou malheureux. Simplement, attendons que Jésus revienne et lui fera tout à merveille. Et donc, j'ai peur que cette insistance sur le retour du Christ est quelque chose de démobilisant pour les chrétiens. Alors que je crois au contraire que nous n'avons pas à nous mettre dans une situation d'attente, mais que le message du christianisme, c'est de dire « le Messie est venu et donc il a accompli toute chose, il nous a donné tous les éléments qu'il faut pour savoir que faire dans ce monde et dans quelle direction agir, et maintenant c'est à nous de faire en sorte que ce message évangélique se rende effectivement présent concrètement dans le monde. Et donc je pense qu'il ne faudrait pas que les chrétiens reviennent dans une sorte d'attitude pré-messianique, en quelque sorte, et redeviennent comme les juifs qui attendent le Messie et qui attendent les temps messianiques. Nous n'avons pas à attendre, pour moi, et la prédication chrétienne, c'est de dire « le Messie est venu ». Et donc, nous ne sommes pas dans l'attente, mais nous sommes au contraire dans l'accomplissement des temps qui nous sont offerts. Mais néanmoins, un certain nombre de chrétiens, donc, attendent. Et on peut interpréter ainsi, d'une manière ou d'une autre, même cette demande du Notre Père, quand nous disons « Seigneur, Notre Père, que ton règne vienne », certains entendent cette demande dans le sens de dire « Seigneur, dépêche-toi, fais en sorte que enfin ton règne de justice s'accomplisse sur terre. Et nous, eh bien, nous attendons, nous espérons que tu accomplisses toi-même ton règne. » Alors que je pense plutôt que quand nous demandons cela, nous demandons plutôt « Seigneur, fais en sorte que nous sachions établir sur la terre ton règne et que moi, le premier concerné, je sache te reconnaître comme roi. » La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas cette théologie du retour du Christ, c'est que je crois que tous les textes de la Bible nous concernent, nous, aujourd'hui et maintenant. Et que par conséquent, chaque fois qu'on lit un passage dans l'Écriture, il faut se dire, dans ce passage, eh bien, on parle de moi, il est question de moi, et ça me touche, moi, aujourd'hui, dans ce que j'ai à faire et dans ce que j'ai à vivre. Or donc, S'il y a des passages qui parlent du retour du Christ, je ne peux pas interpréter ces passages comme concernant un moment particulier dans l'histoire. Parce que même si le Christ devait revenir un jour, cela voudrait dire que cela fait 2000 ans que des chrétiens lisent des passages sur le retour du Christ qui ne les concernent pas, puisque eux n'ont pas vu revenir le Christ. Et il y a de fortes chances aussi que du coup, nous aussi, nous lisions ces passages comme s'ils ne nous concernaient pas, puisque probablement que nous ne verrons pas le retour du Christ. Alors comment pourrait-on imaginer qu'il y ait des passages dans la Bible qui ne concernent, je dirais, qu'une seule génération de croyants, et que donc il y aurait des milliers et des milliers de générations de croyants qui liraient ces passages sans que cela leur dise quoi que ce soit. Donc non, il faut croire au contraire que si chaque passage parle de nous aujourd'hui et maintenant, eh bien c'est que ce retour du Christ nous concerne. Et par conséquent, cela veut dire que le Christ, si le Christ revient, il doit revenir pour chaque chrétien et à chaque instant. Et donc c'est pour nous aujourd'hui et maintenant que Jésus revient. C'est pour nous maintenant et en nous que le Christ revient. Et ça, c'est la proposition que je fais, moi, de l'interprétation de ce message du retour du Christ. C'est que le Christ, effectivement, doit revenir, mais il doit revenir spirituellement dans le cœur de chaque croyant. Et ça, c'est assez vrai, parce qu'en effet, Jésus est venu dans le monde. Il est né, mettons à Noël, il est venu dans le monde, mais qu'est-ce que cela peut faire si le croyant n'accueille pas le Christ dans son cœur? Et donc, Jésus est venu historiquement, physiquement dans le monde, et il faut encore qu'il revienne, c'est-à-dire qu'il revienne en nous et dans chacun de nous, qu'il se réincarne, je dirais, dans chaque personne, dans chaque croyant, et qu'il revienne dans le cœur, dans l'esprit, dans la foi de chaque chrétien. Et c'est l'enjeu, je dirais, de toute notre existence spirituelle et de notre existence du Christ. C'est pour ça que j'ai aimé ce passage de l'Apocalypse synoptique de Matthieu 24, versets 23 et suivants, quand précisément j'ai l'impression que Jésus va dans ce sens. En effet, il dit « Le Fils de l'homme reviendra ». Mais vous savez, il ne reviendra pas de manière à forcer les esprits, en quelque sorte. Et donc, dit-il, si quelqu'un vous dit « il est dans le désert », n'y allez pas. Si on vous dit « il est dans une chambre », n'y allez pas. Parce que, dit-il, le Fils de l'homme, il viendra comme une grande lumière qui illumine tout, de l'est jusqu'à l'ouest, du nord jusqu'au sud. Cela veut dire que Jésus ne reviendra pas dans un lieu géographique, mais il reviendra à la fois partout, à la fois. Et de quelle manière ? Comme une lumière. Or, la lumière, dans la Bible, évidemment, ce n'est pas des kilowatts qui est fourni par l'EDF, mais la lumière dans la Bible, c'est une dimension spirituelle. D'ailleurs, Jésus lui-même, bien sûr, dit « Je suis la lumière du monde ». Cela veut dire que nous devons accueillir le Christ comme cette lumière intérieure qui peut nous éclairer et qui peut nous permettre d'avancer dans notre route. Et ça, c'est une chose fondamentale. Quant à la parousie, je vous ai dit, c'est le terme technique pour désigner le retour du Christ attendu par certains. Là encore, si on prend la langue originelle, le grec, parousia, ça ne veut pas dire retour, avènement, apparition, mais parousia, ça veut dire être présent à côté de quelqu'un. Et donc, c'est un mot assez courant qui veut dire simplement être présent, être là. Et c'est ça que j'attends, que le Christ soit présent dans nos vies, dans nos cœurs, qu'il soit à côté de nous, qu'il soit avec nous. Et ça, ça ne sera pas réservé simplement à une génération de croyants. J'espère bien que chaque génération et chaque croyant peut découvrir le sens profond de cette parousie du Seigneur, de ce retour du Seigneur qui vient et qui se rend présent en nous et parmi nous. Cela fait d'ailleurs partie de la promesse de Jésus, d'après la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est comme cela que Jésus sera présent, par sa parole, par sa présence, par la lumière qu'il nous donne, et par je dirais, par cette présence spirituelle et d'amour qui nous est offerte. Alors voici donc ce retour du Christ qui n'est pas, je crois, un événement chronologique, un événement géographique ou historique. Ce retour du Christ n'est pas à attendre, mais il est à préparer dans notre cœur pour savoir l'accueillir. Comme les vierges sages dans l'Évangile qui attendent le retour de l'époux et qui se préparent à accueillir l'époux qui doit venir dans la nuit, dans leur existence, et à ce moment-là, il faut qu'elles soient capables de l'accueillir. Chacun de nous devons accueillir ce retour, si pour peu que nous le voulions bien. Reste ce mystérieux millénium, ces 1000 ans de règne. Alors là encore, il y a eu différentes interprétations. Dans l'origine du christianisme, on l'interprétait tout à fait au pied de la lettre, en disant, le Jésus va revenir, concrètement, là il va y avoir la résurrection de la chair de tous les morts, et puis Jésus va régner avec tout le monde après avoir vaincu l'Antéchrist, et il va régner 1000 ans sur terre avant qu'il y ait le jugement dernier. Saint Augustin a dit, ça semble difficile quand même de lire ça au pied de la lettre. Et certainement, il est l'un des premiers à avoir dit, il faut interpréter cela spirituellement. Et aussi, Saint Augustin a dit, non, ces 1000 ans, ils ne viendront pas après le retour du Christ, il faut considérer, comme un peu je vous l'ai dit, qu'on est déjà dedans. C'est-à-dire que les 1000 ans commencent à la naissance de Jésus. Donc à la naissance de Jésus, Jésus est là, et là il règne avec les croyants, les fidèles, et puis 1000 ans après, il y aura le jugement dernier. Cela explique certainement la crainte qu'ont eu les chrétiens avec l'arrivée de l'an 1000, en se disant, après 1000 ans de christianisme, il va se passer quelque chose de terrible. Et puis voilà que rien ne s'est passé, donc il a fallu réviser un petit peu les positions. Alors certains ont eu à ce moment-là une autre idée en disant, c'est autre chose. Et ça a donné à ce qu'on appelle le post-millénarisme. Il y a des églises comme ça, qui sont post-millénaristes. Les églises post-millénaristes, elles disent, en fait, ces 1000 ans, c'est l'âge d'or du christianisme. Et l'âge d'or du christianisme, ils disent que ça commence, ça c'est un petit jeu de mots, avec l'édit de Milan. Milan, c'est une ville en Italie, mais ça se prononce comme 1000 ans. Et il y a eu un édit de Milan, en 313, qui a un peu été le départ de la grande église chrétienne. Et donc ils disent, voilà, le début des 1000 ans, c'est l'édit de Milan. Et 1000 ans après, on arrive en 1313. Ou que s'est-il passé en 1313? Eh bien, un événement apparemment grave pour l'Église chrétienne, c'est la fin de l'ordre des Templiers. Et donc certains disent, voilà, c'est l'âge d'or du christianisme. 313, édit de Milan, 1313, la fin des Templiers. Et ils disent que depuis ce moment-là, eh bien, on tombe dans, je dirais de nouveau, dans le règne du mal, donc Satan est libéré, et les choses vont aller de plus en plus mal, jusqu'à une fin apocalyptique, terrible. Bon, je suppose qu'il y en a encore des post-millénaristes. Vous savez, on trouve toutes sortes de sectes et d'églises aujourd'hui, et donc toutes sortes de thèses sont professées. Celle-là en est une. La plus courante, c'est quand même ceux qu'on appelle les pré-millénaristes. C'est les églises millénaristes habituelles qu'on rencontre dans nos églises protestantes évangéliques, qui très souvent sont des églises millénaristes, mais dans le sens pré-millénariste. Et là, elles reprennent effectivement le thème, dirais-je, de l'Église primitive, en disant « Jésus reviendra, quand il reviendra, il régnera 1000 ans avec les justes, il reviendra après une grande bataille qui s'appelle l'Armageddon, après il régnera 1000 ans avec les justes, et là ça sera formidable, un moment, règne de paix, de joie, de bonheur. » Et puis enfin, il y aura de nouveau un grand jugement, et ce sera le jugement dernier, et là, on rigolera moins. Je vous avoue qu'aucune de ces thèses ne m'enchante. Et parce que bon, je comprends rien, je ne vois pas du tout ce que cela peut nous apporter, et puis surtout, je ne vois pas en quoi ça me concerne moi aujourd'hui et maintenant. Que l'on soit pré-millénariste, post-millénariste ou millénariste tout court ou je ne sais quoi, alors aujourd'hui, concrètement, que fais-je? Eh bien, je crois que là encore, il faut appliquer le principe que je vous ai dit. Il faut trouver une solution pour que tout texte de la Bible, y compris ce passage d'Apocalypse 20 sur le millénium, puisse nous concerner aujourd'hui et maintenant. Et donc, reprenons l'idée de base. Le retour du Christ, ce n'est pas un événement historique, ni passé ni futur. Le retour du Christ, c'est l'expérience spirituelle à laquelle nous sommes invités. Et à ce moment-là, l'Apocalypse nous parle de cela. Et il nous dit, dans Apocalypse 20, comment peut se passer ce retour du Christ en nous et cette présence du Christ en nous. Et il va expliquer que du coup, quand Jésus revient, il revient chez certaines personnes et ça provoque quelque chose d'assez intéressant. Tout d'abord, regardons ce que dit le texte. Il va dire ceux qui sont concernés, c'est-à-dire qu'il va ressusciter, dit-il, ceux qui n'ont pas la marque de la bête, mais autrement dit, ceux qui sont marqués du signe de Dieu. Ça, c'est une allusion à un autre texte qui précède à propos du signe 666, le signe de la bête qui est marqué sur ceux qui veulent faire le mal. Et il dit que ceux qui sont les bons croyants, en quelque sorte, c'est ceux qui simplement sont marqués sur leur front et sur leurs mains, c'est-à-dire dans leurs pensées et dans leurs gestes, de la marque de Dieu lui-même. Et dire que ceux qui participeront à ce règne de 1000 ans avec le Christ, eh bien, c'est ceux qui seront marqués du signe de Dieu. C'est déjà une excellente nouvelle. Parce que, voyez-vous, il ne dit pas « régneront avec le Christ tous ceux qui seront parfaits ». Il ne dit pas « régneront tous ceux qui auront toute la connaissance, tous ceux qui auront fait toutes les bonnes œuvres du monde ». Il ne dit pas « ceux qui seront les saints par excellence ». Il dit simplement « ceux qui auront accepté de ne pas se prosterner devant le mal ». C'est une vision, je dirais, à contrario, donc au moins ceux qui n'ont pas consacré leur vie au mal. Voilà, c'est déjà pas mal, hein ? Et puis ceux qui, autrement dit, sont marqués du signe de Dieu. Et là, il y a une image assez saisissante de ce que dans nos églises, et surtout dans les églises de la Réforme, on appelle le salut par la foi. Ceux qui sont concernés, ce ne sont pas forcément ceux qui auront fait toutes les bonnes œuvres du monde, mais ceux qui simplement auront dit « Oui, Seigneur, moi, je veux bien t'appartenir. » Et c'est ça, accepter de se laisser marquer du signe de Dieu et dire « Oui, moi, je choisis mon camp. Mon camp, ce n'est pas celui de la haine, de la violence, de la vengeance, mais moi, mon camp, c'est celui de l'amour, du pardon et de la gratuité. Et je choisis d'appartenir à ce camp-là. Et je veux être marqué de la marque de ce Dieu d'amour, de pardon et de grâce. » Bon, après, concrètement, je fais ce que je peux, hein. Je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, mais bon, moi, je fais ce que je peux dans cette Église. Et parfois, sûrement, qu'il y a dans ma vie un peu de haine, de vengeance ou de ressentiment. Mais néanmoins, moi, ce que je dis, c'est que je veux être marqué du signe de ce Dieu. Cela veut dire qu'il faut choisir son camp. Il faut choisir à qui l'on veut appartenir et choisir par quoi l'on veut être marqué et quel sceau on veut impliquer sur soi-même. Donc moi, je veux bien qu'on marque sur mon front « Celui-là, il croit dans l'amour, dans le pardon et dans la paix. » Je veux bien qu'on le dise. Je veux appartenir à cela. Concrètement, je fais ce que je peux. Mais c'est ceux qui simplement veulent appartenir à Dieu, c'est ceux-là qui régneront. Pas les purs, pas les parfaits, pas les saints. Tous ceux qui simplement, donc, ont la foi. Et la foi, c'est l'adhésion. Ce n'est pas le sentiment religieux. La foi, c'est l'adhésion, c'est de dire « Oui, Seigneur, je veux t'appartenir. » Et cela, nous dit le texte, la première chose qui leur arrive avant le règne de 1000 ans, la première chose qui leur arrive, c'est qu'ils ressuscitent. Et non seulement ils ressuscitent, mais en plus, ils ne mourront pas. Et ça n'a rien de mystérieux. C'est même une des grandes annonces de l'Évangile. Là encore, simplement, il faut revisiter nos dogmes chrétiens. Trop souvent, on a expliqué aux enfants des catéchismes que la résurrection, c'est qu'on vit, on meurt, et après, on ressuscite pour prendre le thé avec les anges. En fait, ni dans l'évangile de Jean, ni dans les lettres de Paul, la résurrection n'est comme cela. Dans Jean comme dans Paul, la résurrection, c'est quelque chose que l'on doit vivre de notre vivant, en quelque sorte. Parce que ressusciter, c'est accéder à une vie nouvelle. Et nous devons naître de nouveau pour vivre en Dieu et en Christ. Autrement dit, la résurrection de l'Évangile, c'est ce que Jésus explique à Nicodème en Jean 3, quand il dit « Il ne suffit pas d'être né de la chair et, du sang, il faut naître d'esprit et naître d'en haut. Et quand on naît à cette dimension nouvelle, quand on naît à cette dimension spirituelle, eh bien voilà, on est né de nouveau, on est ressuscité avec Christ. » C'est pourquoi dans Paul, le mot « ressuscité » est souvent au passé. Et il dit aux croyants, « Si donc vous êtes ressuscités, vivez des choses d'en haut et vivez de l'Esprit. » Et c'est pourquoi aussi Jean fait dire à Jésus, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui vit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il dit aussi, « Celui qui écoute ma parole, celui qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. » Il ne dit pas « il aura la vie éternelle », mais « il a la vie éternelle ». Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pas « il passera de la mort à la vie », mais il est passé de la mort à la vie. Et donc l'idée de Jean, c'est que voilà, nous ressuscitons, nous accédons à cette dimension spirituelle, et cette dimension spirituelle, elle est tellement au-delà de notre dimension matérielle et biologique que la mort n'a pas de prise sur elle. Et donc, quand nous sommes dans cette dimension spirituelle, eh bien, cette dimension spirituelle traverse la mort et donc nous ne mourrons pas. Eh bien, c'est ce que dit l'Apocalypse. Quand Jésus revient, la première chose qu'il leur donne, c'est la résurrection. Et cela, eh bien, ils ne connaîtront pas ce qu'il appelle la deuxième mort. Ah oui, il y a deux morts. Il y a la première, c'est la mort spirituelle, c'est la pire. Et la deuxième, c'est la mort physique. Ça, on s'en fiche, puisque la dimension spirituelle la transcende et la dépasse. Et donc, nous sommes bien d'accord avec cela, je comprends. Et pour cela, donc, comment accéder ? Eh bien, il suffit de, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, de croire à la parole. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et il vivra quand même, il serait mort. Cela, Jésus donc se rend présent en eux, il vient en eux comme un ferment de vie, et on nous dit que Jésus règnera avec eux. Là encore, regardons de près ce qui est écrit. On nous dit que Jésus règnera avec ceux-là, j'allais dire les justes, non, avec ceux simplement qui disent oui. Et il règnera avec eux. Ça, c'est une théologie extraordinaire. Parce qu'il ne dit pas « Jésus règnera sur les justes », mais il dit « il règnera avec les justes ». Et donc, il propose, là aussi, contrairement à peut-être 2000 ans de prédication chrétienne, non pas un rapport de soumission au Christ, mais un rapport de coopération, un rapport presque d'égalité avec lui. Et là, je pense qu'aussi, on a trop dit qu'être chrétien, c'était dire Jésus-Christ est le Seigneur, dire je me soumets à Jésus et à Dieu, parce que le Christ est tout, il est le Maître, et vous, vous êtes des misérables vers de terre, des pécheurs, tout petits qui ne pouvaient que espérer que le Seigneur vous envoie, je dirais, des lambeaux de vie éternelle, comme on jette des graines à des oiseaux. Eh bien, Dieu n'est pas comme cela, en tout cas, dans l'Apocalypse. Dieu, il prend celui qui a simplement bien voulu être marqué de son signe, il lui dit « Viens mon ami, viens régner avec moi ». C'est-à-dire qu'il le met sur le trône avec lui. Ça c'est une dignité, une gloire, une chose absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il nous donne d'être à son niveau. Et il y a là deux choses. D'abord, une responsabilité sûrement. Si nous devons régner avec le Christ, c'est que, peut-être justement, comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas à Jésus de tout faire et nous à attendre que Jésus fasse le travail, mais nous sommes co-responsables avec Dieu du monde. Et donc oui, nous disons, Seigneur, fais venir ton règne. Eh bien, ce règne, c'est aussi le vôtre, hein ? Et si vous voulez qu'il y ait de la paix dans le monde, qu'est-ce que vous faites, vous ? Nous ne pouvons pas simplement adresser des remontrances à Dieu, comme les syndicats en veulent aux partis politiques ou au président de la République parce qu'il y a trop de chômage ou trop de dettes. Nous sommes au gouvernement. Et nous sommes invités à être responsables de ce monde et à travailler pour que le royaume de Dieu progresse, pour que la paix progresse, pour que la justice progresse, pour que la guerre recule, que les maladies reculent, que le mal recule et que la souffrance recule. Donc oui, il nous invite à régner avec lui. Et puis si nous devons régner avec lui, c'est qu'il nous donne aussi la possibilité de faire un avec lui, de nous unir avec lui et d'être justement, je dirais, à son niveau en quelque sorte, d'être co-responsable avec lui, d'être coopérateur de Dieu, et ça c'est une chose absolument extraordinaire. Reste cette durée de 1000 ans pour finir. Et cette durée de 1000 ans, je peux l'interpréter de deux manières. Parce que 1000, soit c'est 10 fois 10 fois 10, soit c'est un 1 avec plein de zéros. Et ça ne donne pas tout à fait la même signification, mais les deux sont intéressantes. Tout d'abord, j'ai pensé longtemps que c'était 10 fois 10 fois 10. Or, 10, c'est le nombre de la loi, des 10 commandements. Et donc, si ce règne dure 1000 ans, c'est-à-dire que cette position qui nous est donnée de vouloir appartenir à Dieu et de coopérer au règne de Dieu, eh bien ça, c'est l'accomplissement de toute la loi. Cela veut dire que l'exigence religieuse n'est plus une exigence morale, éthique, de bien faire ceci, de ne pas faire cela, d'être gentil, de ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Mais l'accomplissement de la loi, c'est simplement de dire au Seigneur, « Je règne avec toi, Seigneur. Et oui, je veux être marqué du signe de ton nom. » Et donc cette attitude, c'est l'accomplissement de toute la loi, accueillir le Christ dans son cœur, l'accepter qu'il revienne en nous et le laisser régner en nous et avec nous, pour être un avec lui. Et ce un, tient justement, je le retrouve dans la deuxième lecture. Parce que 1000, ce peut être un 1 avec plein de zéros. 1000, ça veut dire encore plus fort, quoi, en hébreu. Et donc, le 1, c'est Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel est un. Le 1, c'est l'unité. C'est l'unité par excellence. Et alors, peut-être que, si donc nous acceptons de laisser le Christ revenir en nous, de régner avec lui, eh bien, nous accomplissons l'unité parfaite. L'unité parfaite qui est d'être un avec Dieu, d'être un avec le Christ et d'être un avec nos frères et sœurs. Et d'être un avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et donc, certainement, y a-t-il là peut-être l'accomplissement même de ce que l'on appelle le sommaire de la loi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est là que l'on fait un avec Dieu et un avec les autres et avec celui qui nous est confié. Et c'est également ce que dit Jean. Ce n'est pas pour rien qu'on attribue l'Apocalypse à Jean, parce qu'on y retrouve cette théologie très profonde de l'évangile de Jean. Et dans Jean, on nous dit que Jésus a prié pour ses disciples à la fin, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale en Jean 17, où Jésus dit exactement cela. Il dit « Et ce n'est pas pour eux que je prie, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Non, pas ceux qui seront parfaits, mais ceux qui croiront en moi. « Afin, dit-il, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est tout à fait ce que je vous disais sur le règne. Afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et donc ces 1000 ans, c'est les 1000 ans de l'unité. Mais de toute façon, c'est normal, le psaume dit lui-même, et c'est répété plusieurs fois dans l'Écriture, « Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. » Par conséquent, si règne de 1000 ans, eh bien c'est le règne de chaque jour, où Dieu règne dans nos cœurs pour 7 journées. Cette journée est une belle journée, nous la vivons avec la présence de Dieu. Mais en même temps, méfiez-vous quand même. Tout cela est bien beau, mais il y a une petite mise en garde à la fin du texte. Et il dit attention, parce qu'au bout des 1000 ans, eh bien le diable va être libéré. Et là, on va quand même voir qui tient bon. C'est vrai, il ne faut pas non plus se croire trop facilement arrivé et se dire « Oh ben c'est bon, moi je suis chrétien, je dis oui Seigneur, donc je peux tout faire et il n'y a aucune menace, aucun risque, aucun péché. » Non, le diable est quand même toujours là et il rôde. Et donc, méfiez-vous quand même. Hein. Il y a toujours la tentation, toujours le danger, toujours le risque de chuter, d'oublier le Seigneur. Il est bon donc que nous disions aussi, comme dans le Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation ». Mais plutôt ne nous laisse pas entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Parce que faut quand même pas se croire trop facilement arrivé. Mais n'ayez crainte, car tout cela, vous le voyez bien, n'est pas, je dirais, notre mérite. Notre seul mérite, c'est de dire « Viens Seigneur, Maranatha », c'est le cri, je dirais, de l'Apocalypse, le cri des premiers chrétiens qui disaient « Viens toi-même Seigneur ». Viens en nous, viens régner dans nos cœurs, et si nous acceptons de laisser Jésus venir en nous et régner en nous, alors nous accomplirons tout ce que Dieu nous demande, et nous accomplirons aussi cette exigence d'unité et ce commandement extraordinaire qui est le commandement d'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour la plus grande joie et le plus grand bonheur de nous-mêmes et de tous ceux avec lesquels nous pourrons le partager. Amen.